rien que la lumière. Rien que la lumière. Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une cananéenne qui a séduit mon cheval et s'est retranchée dans la lumière. N'entre pas, ne sors pas. Je ne suis pas entré, je ne suis pas sorti. Elle a dit, me vois-tu ? J'ai murmuré, il me manque pour le savoir. L'écart entre le voyageur et le chemin, le chanteur et les chants. Telle une lettre de l'alphabet, Jéricho s'est assise dans son nom et j'ai trébuché dans le mien à la croisée des sens. Je suis ce que je serai demain. Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une cananéenne qui a séduit mon cheval. Et je suis reparti en quête de mon lieu, plus haut et plus loin, encore plus haut, encore plus loin que mon temps.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur Aligre FM 93.1. Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Didier Sandre, disant un poème de l'immense poète palestinien Mahmoud Darwish, lors d'un récital à deux voix le 7 octobre 2007 à l'Odéon. Un poème de Darwish pour une émission qui est un peu le prolongement des trois heures que nous avons consacrées le 27 mars dernier à ce qui se joue en ce moment même à Gaza et dans les territoires occupés de Cisjordanie. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de la radio. Edwin Plenel, je vous le disais tout à l'heure, est mon invité. Il est journaliste, co-fondateur de Mediapart. Il est mon invité ce matin pour parler d'un livre publié aux éditions La Découverte et intitulé « Palestine, notre blessure ». Bonjour Edwy Plenel.
Bonjour.
Merci d'être au micro d'Aligre FM ce matin. Un livre qui rassemble un ensemble de 11 textes écrits et publiés sur la question palestinienne depuis 2008. Assorti d'un texte d'introduction inédit. Une manière donc de resituer le 7 octobre et la tragédie qui se joue actuellement dans les territoires occupés et à Gaza, de resituer donc ces événements dans l'histoire, dans ce temps long qui seul permet, sans nier la portée du drame initial, de voir, de nommer, de dénoncer ce qui depuis 18 mois de bombardements aveugles et de déshumanisation de toute une population de civils à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, se rejoue, portée à son paroxysme, d'une guerre coloniale qui ne veut pas dire son nom. Edwy Plenel, la guerre qui se joue depuis maintenant 18 mois et qui se traduit par des bombardements intensifs, la famine, des milliers d'enfants tués, disparus, privés d'avenir, amputés parfois dans des conditions atroces, sans anesthésie. Cette guerre menée par Israël à Gaza, c'est la 15e depuis 48, vous le rappelez dans votre livre dont nous allons parler pendant une heure ce matin. Mais auparavant, j'aimerais, si vous le permettez, vous demander de réagir aux événements récents. Alors, plusieurs points. La visite d'Emmanuel Macron en Égypte et à quelques pas de la frontière avec Gaza. Sa description d'une situation humanitaire qualifiée d'intenable, jamais aussi grave, ses discussions avec les ONG et sa déclaration proposant la reconnaissance de l'État palestinien en juin, après que 147 pays, dont l'Espagne, l'aient déjà fait, mais jamais la France. Qu'en pensez-vous ?
C'est bien tard. La France aurait dû reconnaître l'État de Palestine depuis, comme l'ont fait l'Espagne, depuis depuis au minimum une année, sinon bien plus. Et puis, c'est bien tard et c'est bien peu, au même moment où il y avait, évidemment, ce sont des pas, mais au même moment, la France a confirmé qu'elle participait avec l'Union européenne au déni du droit international en acceptant que l'avion de M. Netanyahou, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour ses crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, au minimum, eh bien, la France a accepté que cet avion traverse son espace aérien. Il venait de Hongrie, où M. Orban, qui est totalement soutenu par M. Poutine et par M. Trump, l'avait reçu, en niant le droit international, toute la justice pénale internationale, et il allait aux États-Unis voir son ami Trump, lequel Trump a donné le feu vert, il faut bien le dire, hein, aujourd'hui, tous ceux qui sont aveugles et indifférents ont à eux. Aujourd'hui, seuls les aveugles se refusent à voir. Monsieur Trump a donné le feu vert à ce que j'appelle la destruction de la Palestine. Il y a évidemment les qualifications juridiques. Le génocide est qualifié comme tel par Amnesty International, par Human Rights Watch, par...
Francesca Albanese.
Oui, Francesca Albanese, Médecins du Monde, mais je citais déjà des ONG de la société civile qui ont fait des rapports en décembre l'année dernière, et Amnesty International, c'est très important de ce point de vue. Mais au-delà de la question juridique, crime de guerre, crime contre l'humanité, c'est une évidence, crime de génocide, si on était devant un tribunal, évidemment, c'est la question de l'intentionnalité, mais elle est tellement évidente dans les déclarations des dirigeants israéliens. Mais aujourd'hui, Trump a donné le feu vert à cette destruction qui est un nettoyage, une épuration ethnique. Le jour où il a fait cette déclaration tout à fait effroyable sur la French Riviera, sur une côte d'Azur à Gaza, qui est le feu vert, et c'est à ce moment-là que toute trêve est rompue par l'armée israélienne, qui est le feu vert à l'effacement de la population de Gaza. L'effacement, vraiment, la destruction de la Palestine à Gaza. Et vraiment, c'est pour ça que vous me demandez de réagir. Bien sûr qu'un petit pas vaut mieux qu'aucun pas, mais c'est un tout petit pas dans un moment où il aurait fallu proclamer la reconnaissance de l'État de Palestine, où il faudrait se démarquer de ce que fait la nouvelle commissaire européenne aux affaires étrangères, qui, loin de prendre ses responsabilités, a voulu re-solidifier les liens avec l'État d'Israël. Aujourd'hui, l'État d'Israël est un État voyou, est un État qui viole toute règle de droit international. C'est un État qui mène une guerre totalement criminelle. C'est une guerre, je le redis, non pas contre le Hamas, mais de destruction de la Palestine, de destruction d'un peuple. Et donc, il faut en tirer les conséquences.
Alors justement, Edoui Plenel, pardonnez-moi, je vous coupe. Dans le même temps, Rami Abou-Jamous, qui intervenait sur nos ondes il y a deux semaines, journaliste palestinien, nous a signalé hier que un article d'Aretz confirmait que l'armée israélienne prépare l'intégration de la ville de Rafah, entièrement détruite, et de ses habitants au sud de la bande de Gaza, dans la zone tampon établie depuis le début de la guerre. 20 000 Palestiniens vivaient à Rafah. Ils ont pour la plupart tous fui. On a vu sur les réseaux sociaux, mais pas dans les grands médias, des images atroces des dégâts causés par des bombardements. Le bombardement d'une tente près de l'hôpital à Khan Younes, où se trouvaient des journalistes, avec la mort de Ahmed Mansour brûlé vif. Comment expliquer ce qu'on nomme, ce qu'on désigne, et ce que ses partisans désignent eux-mêmes comme un soutien inconditionnel au gouvernement israélien?
Sur les journalistes, je voudrais préciser au passage, puisqu'en plus, il y a actuellement des discussions entre journalistes pour se secouer un petit peu, oui, parce qu'il y a eu Nous, on a fait une sorte de tombeau hein, des journalistes à Gaza, que vous pouvez retrouver avec toute leur vie, leurs histoires sur Mediapart. Mais en l'occurrence, une université a fait les recherches. Aujourd'hui, cette guerre de Gaza est la guerre la plus meurtrière pour l'information, pour les journalistes, de toutes les guerres précédentes, modernes. Plus de journalistes sont morts depuis le 7 octobre à Gaza que pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant toutes les principales guerres à dimension internationale qui ont eu lieu depuis 1945. C'est une hécatombe sans précédent et ça ne veut pas dire du tout que je voudrais mettre en évidence les morts journalistes par rapport à d'autres morts. Toutes les morts, évidemment, sont aussi essentielles. Mais en l'occurrence, ça dit bien ce que Israël a cherché à faire, c'est-à-dire une guerre à l'heure, justement, des réseaux sociaux et d'une communication internationale, qui soit une guerre dans l'opacité, une guerre non documentée de manière indépendante, avec des journalistes, Gaza, et hors d'accès hein, de toute presse internationale. Et ce ne sont que nos confrères et consoeurs palestiniennes qui ont pu le documenter, et puis au risque de leur vie, d'où cette hécatombe, comme celle des soignants, hein, qui va de pair avec l'ampleur du crime. Vous me posez la question du soutien inconditionnel, je l'explique dans l'ensemble de ce livre. Tout soutien inconditionnel est un aveuglement. Tout soutien inconditionnel est une perte de sens critique. Le soutien inconditionnel à l'État d'Israël est le plus beau cadeau offert par des dirigeants qui se prétendent démocrates aux forces de l'ombre, aux forces d'extrême droite, aux forces du fascisme, aux forces du retour identitaire.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous savez, il faut le dire dans le débat européen, car ça n'a pas du tout été mis en évidence. Il y a quelques semaines, il y a eu à l'Assemblée générale des Nations unies, le jour même où M. Macron allait rencontrer en vain M. Trump, il y a eu un vote d'une résolution sur l'Ukraine, pour soutenir l'Ukraine face à l'impérialisme russe, face à son agression, et défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à une agression impérialiste qui empêche le droit d'un peuple à faire sa vie et à s'autodéterminer. Cette résolution est passée avec pas mal d'abstentions à cause du double standard occidental depuis le 7 octobre entre Gaza et l'Ukraine. Et on votait contre, évidemment, la Russie, puisqu'elle est l'agresseur, évidemment les alliés de la Russie, la Corée du Nord, le Nicaragua. Du coup, évidemment, les États-Unis de Trump, puisque Trump et Poutine, c'est la même chose. Nous sommes face à cette hydre fasciste à deux têtes aujourd'hui, face à nous, dans le monde. Et chacun doit prendre conscience de ça. Mais il y a un autre État qui a voté contre ce soutien à l'Ukraine. C'est l'État d'Israël. Donc, tous ceux qui sont dans ce soutien inconditionnel à Israël, au nom soi-disant des valeurs occidentales, et qui eux-mêmes disent il faut résister à l'agression russe, il faut s'armer, etc., eh bien, ils ne voient pas là. La démonstration est faite, ce que j'ai écrit dans Mediapart, ce que Mediapart a totalement dit depuis le début, c'est que tout soutien inconditionnel à la guerre de Netanyahou était un cadeau à Poutine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on soutient quelqu'un qui viole le droit international, ben on permet à tout le monde, dont celui qu'on prétend par ailleurs combattre ici en Europe, de violer le droit international. C'est là d'où ma réponse sur le trop tard de M. Macron, c'est-à-dire qu'il y avait une ligne de crête à tenir depuis le début. C'est tout le refrain de mon livre, nous n'avons qu'une boussole qui est la boussole de l'égalité des droits. La Palestine, c'est ce que je dis dans l'introduction qui s'intitule « Une cause universelle », pour moi, elle est le nom commun à l'échelle du monde de la question de l'égalité. Elle est comme un caillou dans la chaussure du monde qui lui rappelle qu'après le sursaut de la Deuxième Guerre mondiale, où on a vu combien toutes les idéologies de civilisation supérieures à d'autres, les idéologies colonialistes, les idéologies impérialistes, les idéologies racistes, eh bien, ont produit une catastrophe qui a fait retour sur l'Europe avec des millions de morts, avec du coup la la qualification inventée à cette époque de crime contre l'humanité, de crime de génocide, de crime contre nous-mêmes, contre des populations, et en l'occurrence la destruction des Juifs d'Europe. C'est nul hasard si je reprends la même formule, destruction des Juifs d'Europe, destruction de la Palestine, qui veut bien dire que l'objectif, hein, c'est d'effacer quelque chose, d'effacer une population, d'effacer une idée. Et du coup, la Palestine, elle est un reproche vivant. À ce moment-là, eh bien, nous avons jeté comme un manteau de poussière notre crime en laissant se commettre une injustice sur les dos d'un autre peuple qui n'y était pour rien. Et donc c'est cette question de l'égalité que nous rappelle la Palestine. Et il fallait maintenir, face à deux guerres qui sont là, qui résument le monde aujourd'hui, la guerre en Ukraine et la guerre de Gaza, eh bien, il fallait maintenir ce cap. Et en ne le maintenant pas, eh bien, on fait, et ça concerne M. Macron, mais ça concerne M. Biden. Il faut bien dire que M. Poutine, M. Trump ne nous est pas étranger. Il est le produit de ces aveuglements, comme l'extrême droite ici est le produit des aveuglements qui ont précédé.
Alors, Edwy Plenel, vous avez répondu à ma première question, en quoi la Palestine est une cause universelle, et vous le rappelez tout au long de votre livre, une région du monde qui est garante aussi de la paix du monde. Dans ce que vous dites, j'entends aussi quand même un contexte international post-guerre froide où les alliances anciennes sont remplacées par des alliances contre nature entre des puissances pragmatiques qui obéissent avant tout à leurs intérêts. Est-ce que vous analysez ça également de cette façon ? Le soutien d'Israël le vote d'Israël contre le soutien à l'Ukraine, le fait que le gouvernement israélien actuel soit proche de tous les gouvernements d'extrême droite européens et la manière dont Trump aborde les questions internationales comme du deal.
J'allais dire d'un mal un bien, de l'inquiétude. L'inquiétude est l'antichambre de l'espérance, où là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que là, dans le précipité que nous avons sous les yeux, qui moi ne me surprend pas, je dis depuis longtemps que la catastrophe est là, et à Mediapart nous avons aussi bien documenté le fascisme que représente M. Poutine et la dictature qu'il représente pour son peuple, que évidemment ce que représente cette extrême droite, l'origine ne protège de rien, cette extrême droite suprémaciste, raciste, qui est aujourd'hui mène le jeu au cœur de l'État d'Israël, et les aveuglements de la puissance américaine et les aveuglements de notre propre logique de puissance. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons sous les yeux un précipité qui a commencé, vous avez raison, avec l'unification du monde par un capitalisme absolu, un capitalisme sans limite. Nous avons une alliance de capitalistes mafieux. Monsieur Trump, Monsieur Poutine, ce sont des gens sans foi ni loi. Ce sont comme des gangsters, ils se répartissent le monde, à toi le pétrole, à toi le gaz, à toi les données. Et quand je dis que c'est un capitalisme mafieux, c'est un capitalisme criminel, vous en avez même un symbole qui concerne le monde arabe. Les discussions qui ne sont pas du tout des négociations, puisqu'au fond Trump s'aligne sur les positions de Poutine, sur le sort du peuple ukrainien. Sans l'Ukraine, sans le peuple ukrainien, sur le dos du peuple ukrainien, entre administration américaine et administration russe, se passe où ? Se passe en Arabie Saoudite, chez M. Mohamed Ben Salman, qui est un monarque absolu, qui persécute les minorités dans son pays, qui persécute les opposants, évidemment, et qui est, ça a été documenté par Agnès Callamard, quand elle était responsable des enquêtes sur les crimes extrajudiciaires, qui est le responsable de l'assassinat terrible de notre confrère Jamal Khashoggi en Turquie, dans un piège qui lui a été tendu au consulat turc. Je fais cette addition pour dire que c'est ça, ce monde que nous avons. Nous avons un enjeu aujourd'hui vital, qui est l'effacement de la prise de conscience de comment notre notre logique de puissance, je parle de le nous dont je parle, et cette invention politique qu'est l'Occident, c'est-à-dire cette Europe qui s'est projetée sur le monde depuis 5 siècles, qui a considéré qu'elle pouvait faire la loi du monde, qu'elle pouvait occuper des territoires, qu'elle pouvait chasser des peuples, qu'elle pouvait piller des richesses, imposer sa culture, imposer ses règles, eh bien, nous avons pris conscience, même si cette prise de conscience était imparfaite, la preuve, les guerres coloniales françaises qui ont continué, les réticences, nous sommes à l'anniversaire du 8 mai 45, où en même temps qu'on fête la libération ici, eh bien, il y a Guelma et Sétif, et il y a le refus des droits du peuple algérien et de tant d'autres peuples. Mais néanmoins, à ce moment-là, nous proclamons des principes universels. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies, la Cour internationale de justice, nous proclamons un horizon. Eh bien, les forces que nous avons contre nous aujourd'hui, ce qu'on met derrière ce mot extrême droite qui a toutes sortes de visages, elles ont en commun, dans des contextes différents à chaque fois, de ne plus vouloir de ça. Il n'y a plus de droits universels, il n'y a plus de droits fondamentaux, il n'y a plus de droits de l'humanité, il n'y a que ce que veut mon désir, ma puissance, ma force. Et après, on fait des accords. Hein, on se fait des accords, je dis, comme des mafias, comme des gangs se répartiraient des quartiers d'une ville. Et là, il s'agit des quartiers de la planète. Et j'ai dit dans un autre livre précédent, qui est lié à celui-ci, Le jardin et la jungle, adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait du monde, que nous sommes face à des forces qui sont celles de l'illimitisme et qui mettent en péril, en ce sens, le vivant et pas seulement la part du vivant que nous représentons, l'humanité. Ce sont des forces qui ne veulent pas avoir de limites.
Impunité et hubris.
Hubris et pas de limites. C'est-à-dire que ce sont des forces qui elles-mêmes ne voient pas plus loin que leur survie immédiate, car elles veulent accumuler de la richesse, accumuler de la pouvoir, de la prédation. Regardez ce que fait, y compris M. Trump, par rapport à des alliés. Je veux le Groenland, je veux les taxes douanières, je veux... C'est-à-dire, tout ça est un retour à avant 1789, on pourrait dire cela, avant les Lumières, hein, avant ce qu'on a appelé les Lumières, même si elles se sont accompagnées d'ombres ailleurs, hein, pour le moins. Mais néanmoins, ce sont des idéaux qui ont été proclamés. Et ces idéaux, ça fait 2 siècles et c'est peu à l'échelle de l'humanité, eh bien, nous sommes face à des forces de l'ombre. Hein, j'ai dit dans un article récent de Mediapart que l'Empire contre-attaque, c'est l'Empire du mal, et certaines personnes, par capitulation, passe du côté obscur de la force, eh bien, nous sommes dans un moment vital.
Alors, il y a quand même, pardonnez-moi,
je vous en prie,
de vous interrompre, puisque vous parlez de l'Empire du Mal, il y a quelques Jedi et quelques voix qui s'élèvent, dont celle d'Arundhati Roy, que vous citez dans l'introduction de votre livre, et qui a fait un discours vibrant lorsqu'elle a reçu... le 10 octobre 2024, quelques jours après le 7 octobre, donc le prix Harold Pinter, du nom de cet écrivain qui était de tous les combats internationalistes en faveur du droit, de l'égalité, notamment en Afrique du Sud, allié historique d'Israël. D'ailleurs, c'est en 1948 que les Afrikaners arrivent au pouvoir, coïncidence de l'histoire qui parfois a du sens.
I refuse to play the condemnation game. I do not tell oppressed people how to resist their oppression or who their allies should be. The point is to educate ourselves about the history and the circumstances under which they came to exist. The root of all the violence, including the violence of October 7th, is Israel's occupation of Palestinian land and its subjugation of the Palestinian people. History did not begin on October 7th. 2023. I ask you, which of us sitting in this hall would willingly submit to the indignity that Palestinians in Gaza and the West Bank have been subjected to for decades? What peaceful means have the Palestinian people not tried? What compromise have they not accepted, other than the one that requires them to crawl on their knees and eat dirt? Israel is not fighting a war of self-defense. It is fighting a war of aggression, a war to occupy more territory, to strengthen its apartheid apparatus and tighten its control on Palestinian people and the region. Since October 7th, 2023, apart from the tens of thousands of people it has killed, Israel has displaced the majority of Gaza's population many times over. It has bombed hospitals, it has deliberately targeted and killed doctors, aid workers, and journalists. A whole population is being starved. Their history is sought to be erased. All this is supported both morally and materially by the wealthiest, most powerful governments in the world and their media.
Aligre FM 93.1.
Voilà, un retour sur Aligre FM 93.1. Depuis ce matin, 9h, nous sommes en compagnie d'Edoui Plenel et nous venons d'entendre la voix de l'écrivaine indienne Arundhati Roy lors d'un discours qui accompagnait la remise du prix Harold Pinter en octobre. Le 10 octobre, très exactement, 2024, Edoui Plenel, si j'ai souhaité faire entendre une partie de ce discours, c'est parce que vous le citez en introduction de ce recueil de textes. Arundhati Roy rappelle que les guerres menées par Israël ne sont pas des guerres de défense, mais bien des guerres d'agression. Et elle resitue dans l'histoire l'événement du 7 octobre, au fond, en montrant que la communauté internationale est responsable de cet événement. Vous-même, dans le livre que vous publiez récemment aux éditions La Découverte, Palestine, notre blessure, vous republiez 11 articles, si j'ai bien compris, publiés dans Mediapart par vos soins depuis 2008. Et en le lisant, ce livre, on a l'impression que c'est la chronique d'une catastrophe annoncée, dans laquelle vous pointez notamment le rôle joué aussi par des gouvernements socialistes en France comme en Israël, Ehud Barak et François Hollande au pouvoir en 2014, qui, selon vous, marque un tournant dans la diplomatie française en exprimant un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, qui à ce moment-là riposte de manière disproportionnée à des attaques venues de Gaza. Et on a entendu François Hollande faire une distinction entre les morts du 7 octobre et les morts collatéraux palestiniens, comme si la vie des Palestiniens valait moins que celle des civils israéliens, un collatéralisme qui à ce jour monte à 53 000 victimes en Palestine. Pardonnez-moi pour cette question un peu longue. Je voudrais qu'on revienne sur le rôle joué par Ehud Barak, s'il vous plaît, Edoui Plenel. Oui.
Vous pourriez ajouter pas seulement les socialistes français ou les travaillistes israéliens, il faudrait ajouter les démocrates américains. Mon livre comporte différentes adresses et il y a une adresse à François Hollande qui est l'homme qui a fait basculer la France en 2014. À l'été 2014, c'était déjà une guerre à Gaza dans le soutien inconditionnel à Israël, rompant avec à la fois l'héritage gaulliste et l'héritage mitterrandien. Mais il s'ouvre par une adresse à un autre président qui est au moment de l'intronisation de Barack Obama, avec les espoirs que cela avait suscité par rapport à la société américaine. Et quand on relit cette adresse de 2009, où je lui dis, c'est là où je dis Palestine, où se joue la paix du monde, et au moment où il rentre en fonction, il y a encore une guerre israélienne à Gaza, et je lui dis, voilà, la Palestine manque à l'appel, il y a quelque chose qui manque et elle continuera à manquer à l'appel puisque Biden, qui est son successeur qui l'avait accompagné en tant que vice-président, sera totalement lui aussi dans ce soutien inconditionnel, inconditionnel à Israël depuis le 7 octobre. Et donc, la question qui est posée par tout cela, et je vais revenir sur Ehud Barak, c'est évidemment, quand vous dites une catastrophe annoncée, pour moi, sur cette question comme sur d'autres, la catastrophe, elle n'est pas à venir, elle est déjà là. Hein. La catastrophe, c'est que tout continue comme avant, c'est qu'on laisse cet engrenage, et cet engrenage ne peut qu'aller vers le pire. Et d'ailleurs, le pire, vous l'avez. Hein. Et il arrive là, et nous y sommes. Et je le redis, seuls les aveugles ne veulent pas voir, seuls qui s'aveuglent eux-mêmes ne veulent pas voir, comme certains ne voulaient pas voir les saluts nazis de M. Musk et lui trouvaient des explications, comme ils ne veulent pas voir que ces milliardaires ont acheté la présidence, que nous sommes face à des, encore une fois, à un capitalisme de bandits, de violence, de crimes sans limite. Et donc la vraie question, c'est comment on lui fait la courte échelle. Hein, comment hein, on ne tient pas la digue, comment on ne fait pas face. Et là, ça nous concerne toutes et tous, indépendamment de nos sensibilités partisanes. Hein, ce sont des moments de vérité. Ce sont des moments de vérité, nul hasard. J'ai fait un grand entretien avec lui qui a accéléré un peu sa présence dans le débat public national, au sens d'une ambition dont on verra si elle se concrétise ou pas. Je parle de Dominique de Villepin, évidemment. Cet entretien que nous avons fait justement quelques jours avant l'intronisation de Donald Trump, hein, pour faire résonner aujourd'hui la voix qui, en 2003, s'était dressée contre l'hubris américaine face à l'Irak, cette catastrophe qui a bien eu lieu et qui en a provoqué d'autres, dont l'État islamique, dont toute une destruction que les peuples de la région ont subie. Et donc, je cite Dominique de Villepin, pour dire, voilà, on est dans un moment où on a rendez-vous avec nous-mêmes, hein, où il y a des principes qui sont en jeu, et ce n'est pas l'étiquette politique ou l'origine qui protège, où on serait propriétaire du bien. Encore une fois, des gens qui se croient de gauche peuvent avoir accompagné des guerres coloniales, et ça a été le cas en France pendant la guerre d'Algérie. Je vais vous répondre sur Ehud Barak, mais je voudrais souligner que, et je suis très content que vous ayez retrouvé l'original du discours de Arundhati Roy, le livre s'appelle « Palestine, notre blessure » à cause d'elle. Hein, c'est elle, c'est une phrase de son discours, elle dit « Toute la puissance et l'argent, toutes les armes et la propagande du monde ne peuvent plus cacher la blessure qu'est la Palestine, une plaie par laquelle saigne le monde entier, y compris Israël. » Et ce qui est très important, c'est que dans son discours, elle refuse de ce qu'elle appelle « jouer le jeu de la condamnation ». Elle dit à un moment, c'est une activiste indienne, hein, qui d'ailleurs est diabolisée et poursuivie par le pouvoir indien actuel, qui est un pouvoir suprémaciste hindouiste, qui persécute notamment les musulmans. Et elle dit, je suis parfaitement consciente qu'en tant qu'écrivaine non musulmane et femme, il me serait très difficile, voire impossible, de survivre très longtemps sous la domination du Hamas, du Hezbollah ou du régime iranien. Mais là n'est pas la question. Il s'agit de nous informer sur l'histoire et les circonstances dans lesquelles ils ont vu le jour. Hein, ne pas être dans un présent, un présent qui vous aveugle, hein, et qui ne vous permet pas de comprendre. Je suis consciente que le Hezbollah et le régime iranien ont de fervents détracteurs dans leur propre pays. Elle est solidaire de Femmes, Vie, Liberté, par exemple, dont certains croupissent en prison ou ont connu des situations bien pires. Je suis consciente que certaines de leurs actions, le meurtre de civils et la prise d'otages du 7 octobre par le Hamas, constituent des crimes de guerre. Toutefois, il ne peut y avoir d'équivalence entre ces actions et celles menées par Israël et les États-Unis à Gaza, en Cisjordanie et aujourd'hui au Liban. On était à l'automne dernier. La racine de toutes les violences, y compris celle du 7 octobre, est l'occupation par Israël de la terre palestinienne et l'assujettissement du peuple palestinien. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Donc, c'est très important parce qu'elle se refuse, tout en combattant, hein, l'idéologie identitaire que portent des forces politiques islamistes qui refusent la diversité des sociétés, elle refuse à mettre une équivalence entre oppresseurs et opprimés.
Et ce sont des discours, pardonnez-moi Edoui Plenel, peut-être aussi qui permettent de sortir du clivage pro-palestinien, pro-israélien, oui, pour...
C'est ça la boussole de l'égalité.
Voilà, pour être au service d'une cause universelle. Et c'est peut-être cet universalisme qui manque aujourd'hui.
Oui, l'universel, c'est, vous savez, pour moi, je fais partie de ceux comme Souleymane Bachir Diagne récemment, philosophe sénégalais, ou Édouard Glissant, il n'y a pas d'universel, au sens personne n'est propriétaire de l'universel, il n'y a que de l'universalisable. Et ça se joue au présent. ça se joue dans ce respect des principes, ce respect vis-à-vis de l'autre. Si je dis j'incarne l'universel et que je suis incapable de le reconnaître chez l'autre, et où je me pense supérieur, je me pense propriétaire du bien, propriétaire du juste, eh bien évidemment je détruis l'universel.
Et vous citez un très beau poème d'un autre de Mahmoud Darwish sur la question du à la rapport fin, à l'autre. Excusez-moi de vous interrompre, de Plenel, parce qu'il nous reste à peine 40 minutes, alors on ne va pas faire de pause musicale parce que le sujet
est... Mais je ne vous ai pas répondu sur
Ehud Barak. Voilà, je vous ramène à la question sur Ehud Barak et d'une manière générale sur le rôle aussi qu'ont pu jouer certains gouvernements israéliens dans la montée du parti Hamas.
Tenons les deux bouts. D'abord, c'est documenté très largement par notre confrère Charles Anderlin. Et d'ailleurs, c'est l'affaire judiciaire à laquelle M. Netanyahou veut échapper. S'il y a une affaire qui concerne la corruption par le Qatar, c'est l'affaire de M. Netanyahou. Faudrait le rappeler à ceux qui ne voudraient pas voir, puisque, en fait, la droite et l'extrême droite israélienne est depuis très longtemps, dès les années 70, contre l'OLP de Yasser Arafat, contre l'organisation majoritaire. Ils ont joué le Hamas, ils ont joué le financement des mouvements islamistes, ils ont produit dans une idée qui est d'ailleurs qui va de pair avec les conservateurs américains, comme avec les talibans, de s'appuyer sur des forces religieuses contre des forces qui acceptent la diversité des peuples, dans une logique identitaire. Donc ils ont joué ça, ils ont produit leur monstre, hein, le monstre qu'ils prétendent combattre, ils ont pendant très longtemps laissé passer le financement par le Qatar, hein, à partir du moment où le Hamas avait pris le contrôle de Gaza et s'était dressé contre l'autorité palestinienne, laquelle entre-temps a évidemment été grandement corrompue et grandement affaiblie. Hein, ça c'est évident, et donc il y a ça sur cette question d'Israël. Il faut tenir les deux bouts. Premièrement, voir que au fond la question que nous posons, hein, qui est le refrain de mon livre et je l'explique en introduction, c'est la question coloniale, hein. Le poison, c'est la question coloniale, qui évidemment est devenu un poison tout à fait dominant à partir de 1967. À partir du moment où Israël, qui avait la légitimité internationale de 48, en 67, brise cette légitimité en gardant les territoires conquis après la guerre des Six Jours, au mépris du droit international, des résolutions des Nations Unies, et je rappelle, y compris, ça a un poids juridique par rapport à la guerre de Gaza, en ayant Gaza est considéré comme étant sous le contrôle d'Israël. Hein. Donc Israël est comptable, hein, de tout ce qui s'y passe, puisque c'est une puissance occupante depuis 1967. Le colonialisme est un poison. Il amène à ce que ceux qui se prétendent civilisés deviennent des barbares. Quand le ministre des Affaires de la Défense israélien dit, deux jours après le 7 octobre, il donne le feu vert au crime en disant « nous sommes face à des barbares humains
hein, ».
Des animaux humains, pardon. Il les barbarise, il les déshumanise, il donne ce feu vert. Et ce feu vert, en effet, il a comme origine cette vision colonialiste qui est dans cette expression, je l'avais déjà mentionné dans mon livre précédent « Le jardin et la jungle », cet exceptionnel entretien de Ehud Barak où il dit « Israël est une villa dans la jungle ». Et ça, c'est une vision tout à fait colonialiste, comme si on est un poste avancé des Lumières face aux ombres et à une forêt menaçante. Et ça, c'est une perdition pour Israël même. C'est une perdition pour le peuple israélien parce que c'est une perdition vers une guerre sans fin. On ne peut pas vivre, soi-disant en sécurité, en pensant que tout le monde alentour est un monde hostile, est un monde avec lequel on ne pourra jamais être en paix, un monde empli de bêtes sauvages.
Mais c'est aussi, pardonnez-moi, Edoui Plenel, une déclaration qui relève d'un imaginaire coloniale.
C'est bien ce que je vous dis, là.
Oui, pardon. Mais ça va plus loin, parce que c'est aussi l'affirmation d'une supériorité de certaines civilisations sur d'autres. Et on voit bien combien le conflit israélo-palestinien a réveillé de cet imaginaire en France.
Sincèrement, il faut dire à tous les jeunes qui nous occupent de relire, qu'ils écoutent le discours sur le colonialisme de Césaire. Tout y est dit. Je l'ai rappelé récemment dans la polémique, qui a été faite sur la question coloniale française. Au bout du colonialisme, il y a Hitler. Au bout du colonialisme, il y a le fascisme et le nazisme. Hein ? Et donc, c'est une terrible, terrible tragédie de l'histoire de voir l'État né de la prise de conscience de ce bout du bout qui a amené, nous sommes ici en Europe, hein, à l'antisémitisme moderne et sa machinerie criminelle jusqu'à la destruction et au génocide des Juifs d'Europe, eh bien, c'est terrible de voir se reproduire dans ce contexte-là, dans l'inconscience et la non-conscience. Et là, ce sont des voix minoritaires, mais je voudrais absolument citer ce texte qui est un texte qui sauve des principes, qui a été exhumé il y a un peu plus d'un an par ce réalisateur israélien qui est aujourd'hui en exil, Avi Moghrabi, et par d'autres, qui est un texte qui paraît en septembre 1967 dans Haaretz. Et j'ai parlé de la boussole de l'égalité. Les auteurs de ce texte, que je vais vous lire, animaient une organisation qui n'existe plus, même si un bon ami en est toujours une figure comme une butte témoin. Il reste avec sa femme avocate, ils sont à Jérusalem. Je parle de Michel Warchavski, dit Mikado, et de Léa Tsemel, hein, qui tiennent cette boussole. Ça s'appelait Matzpen, cette organisation, une organisation internationaliste, une organisation démocratique, une organisation socialiste, et qui ne transigeait pas. Et voilà ce que ont écrit le 22 septembre 67 12 citoyens israéliens dans le quotidien Haaretz. Et relire ça aujourd'hui, eh bien, c'est comprendre, hélas, ce que les travaillistes au pouvoir, dans leur aveuglement, n'ont pas voulu entendre. Notre droit de nous défendre contre l'extermination ne nous donne pas le droit d'opprimer les autres. L'occupation entraîne une domination étrangère. Une domination étrangère entraîne la résistance. La résistance entraîne la répression. La répression entraîne le terrorisme et le contre-terrorisme. Les victimes du terrorisme sont en général des innocents. La mainmise sur les territoires occupés, cette phrase est d'une grande force, fera de nous des assassins et des assassinés. Sortons des territoires occupés maintenant. Voilà, eh bien, c'est la réponse à tous les aveugles qui ne veulent pas voir, ou tous les sourds qui ne veulent pas entendre.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, on a parlé il y a un texte, dans votre livre, Edwy Plenel, que vous avez publié. C'est une adresse à François Hollande que vous comparez à Guy Mollet pendant les guerres de décolonisation. Ça pose la question de la gauche française et de son rapport à la question palestinienne. Il y a eu hier un événement qui a créé la polémique à l'Assemblée nationale, puisque le député apparenté France Insoumise, Émeric Caron, a brandi l'image d'une fillette tuée à Gaza, suivie par les membres de son parti. La séance a été interrompue, des sanctions sont envisagées, alors même que l'Assemblée nationale, mais aussi la Tour Eiffel, je crois, avait été parée, et c'est très bien, de couleur orange en hommage aux victimes de la famille Bibas, otages israéliens, dont le Hamas dit qu'ils ont été tués par les bombardements, alors que le gouvernement dit qu'ils ont été tués à main nue par le Hamas. Que pensez-vous de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale ?
Le débat, je veux dire, sur quel type de mise en scène à l'Assemblée nationale, bon, moi personnellement, et c'était le débat aussi bien sur le film de propagande israélien sur les massacres du 7 octobre que sur le contre-film qu'a fait Émeric Caron, le poids des images, le poids des crimes, on pourrait documenter, et nous documentons aussi des crimes commis par l'armée russe, les viols, le traitement des prisonniers, les exécutions sommaires, enfin tout cela existe de l'autre côté, hein, donc on peut... Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la mise en scène de la douleur et du crime qui fait de la politique. Hein. La politique n'est pas simplement que mon émotion contre la tienne. Hein. Et en revanche, je pense qu'il aurait mieux valu poser à l'Assemblée nationale, quand il y a eu cet événement, la question du survol aérien de M. Netanyahou. Il y avait des questions très précises à poser au pouvoir, hein, sur sa responsabilité. Question froide, j'allais dire, question concrète, plutôt que de faire simplement un événement et un happening qui, évidemment, va permettre aux autres de faire diversion, comme toujours, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas là que se joue la réponse. En revanche, pour revenir à votre question, oui, la comparaison avec François Hollande et la SFIO, elle nous renvoie à une longue durée. Et qui a rebondi, hein, dans le débat sur la relation entre la France et l'Algérie, sur les déclarations de ce journaliste un peu de commentaire qui est Jean-Michel Apathy, qui n'a fait que dire des vérités historiques que nous documentons depuis très longtemps dans
mais
notre travail.
Mais inaudible.
Non, mais devenu inaudible, ouais, à cause de la responsabilité politique. Et là, on est au cœur. La gauche française n'a pas fait le travail qui lui revenait de faire sur la question coloniale. Nous avons eu, enfin, contre François Mitterrand et par la bouche de Jacques Chirac, notre discours du Veldiv sur la participation de l'État français à la destruction des Juifs d'Europe. Nous n'avons pas l'équivalent, malgré quelques pas faits par M. Macron pour la reconnaissance de certains crimes pendant la guerre d'Algérie. Nous n'avons pas eu cet événement qui rassemble notre mémoire collective sur la conscience de ce que fut la colonisation, c'est-à-dire un crime qui s'est accompagné de crimes contre l'humanité, et évidemment une conscience du fait qu'il faut sortir de cet imaginaire colonial, sinon notre société ne peut pas continuer à vivre ensemble, puisqu'elle est faite aussi de cette histoire coloniale, notre peuple est fait de cette histoire. Et là, on est au cœur de la responsabilité de la présidence de François Hollande. François Hollande, et tout beaucoup de nos dégâts viennent de cette époque, François Hollande est d'une génération qui normalement devait être lucide sur la SFIO, c'est ce que je lui rappelle. C'est la SFIO de Guy Mollet qui a accompagné, avec le vote des pouvoirs spéciaux, dont il faut rappeler que même le Parti communiste, en échange de mesures sociales, l'a voté à cette époque, qui a accompagné le pire de la brutalisation de la guerre coloniale en Algérie. Allez voir le film Fanon, hein, dans ce contexte qui est actuellement sur les écrans et qu'il faut soutenir. Frantz Fanon, ce psychiatre martiniquais qui se trouvait à Blida à ce moment-là et qui a épousé la cause indépendantiste algérienne, ça nous rappelle tout cela.
Et qui a aussi rappelé, et vous le citez magnifiquement dans un texte sur l'antisémitisme, que quand l'antisémitisme émerge, il faut toujours entendre dire du mal de soi.
Oui,
finalement.
Quand on dit du mal d'un juif, dressez l'oreille, on parle de vous, disait son professeur de philosophie au lycée Schellcher à Alger. C'est ce qu'il y a à Fort-de-France.
À Fort-de-France,
pardon,
oui. Et c'est dans Peau Noire, Masque Blanc.
Oui, c'est dans ce livre qu'il publie juste avant de rejoindre son poste à Blida, au Seuil, et qui était la première thèse de médecine qu'il a proposé, mais qui a été refusé. Il a dû en faire une autre. Et Peau Noire, Masque Blanc est un texte, comme d'ailleurs Les Damnés de la Terre, et d'un humanisme radical formidable. Au fond, ce sont l'histoire de Frantz Fanon, c'est de dresser face à l'Europe et à la France les idéaux qu'elle a proclamés, et en disant mais tu les piétines, ben c'est moi qui les reprends, hein, c'est moi qui les reprends. Et Dieu sait, il dit à un moment, et on pourrait se le dire aujourd'hui, quittons l'Europe, hein, mes frères, quittons l'Europe qui n'est pas au rendez-vous de sa promesse, et allons voir ailleurs. Et aujourd'hui, une bonne partie du monde nous regarde, hein, et une bonne partie du monde nous dit mais qu'est-ce que c'est que cet Occident qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il prétend être, et du coup ça donne cette monstruosité trumpiste. Mais ce que je voulais vous dire sur François Hollande et Guy Mollet, le point commun est justement le point aveugle sur Israël. Je rappelle qu'en même temps que Guy Mollet à l'époque, et la SFIO, dans laquelle, à l'époque, il y a au gouvernement aussi François Mitterrand. Je rappelle qu'il laisse toutes les exécutions capitales se commettre. Hein. C'est le plus grand nombre d'exécutions capitales qui auront lieu pendant que Mitterrand est garde des Sceaux. Mais je rappelle qu'à cette époque, il y a aussi, cette France-là aide Israël à avoir la bombe atomique. Et cette France-là fait l'expédition de Suez, avec Israël et la Grande-Bretagne, qui sera un fiasco et face à laquelle l'Égypte de Nasser se dressera. Et donc, il y a une histoire de l'héritage colonial qui concerne très particulièrement la gauche française, parce qu'elle se pense propriétaire de l'universel, du bien. Elle pense que la droite, c'est l'argent, c'est l'égoïsme, c'est le capitalisme. Et elle va développer les lumières. Hein. Tout un pan de la gauche dit bah, « j'apporte les lumières à d'autres hein. ». Et c'est pour ça que mon livre « Le jardin et la jungle » interpelle un social-démocrate, non pas français, mais espagnol, Josep Borrell, qui avait dit en 2022 « l'Europe est un joli petit jardin où tout fonctionne, tout autour c'est la jungle ». Et donc, la jungle menace d'envahir le jardin. Et donc, il n'a pas proposé des murs avec des barbelés, lui, mais il a proposé que les jardiniers européens se projettent dans la jungle pour la pacifier, pour l'apaiser. C'est un discours colonialiste typique avec tous ces aveuglements. Et donc, nous payons aujourd'hui où ce retard se paye d'une nécrose, d'une pathologie du corps social sur laquelle l'extrême droite s'appuie pour rejeter une partie de notre peuple issu de cette histoire, et nous le payons par le retard de la gauche, d'une parole ferme de la gauche là-dessus, et qui s'est accompagnée du coup d'une dérive. Je parlais des gens qui passent du côté obscur de la force, hein. Il n'y a que la première marche qui coûte pour dévaler l'escalier. François Hollande, avec Manuel Valls, a signé dans Le Monde un texte à laquelle l'écrivaine libanaise, que je cite beaucoup dans l'introduction de mon livre, Dominique Aidé, a apporté une réponse formidable, également dans Le Monde, qui est un texte pour faire trait d'union entre antisémitisme et antisionisme. C'est-à-dire toute critique du mouvement national juif qui existe, qui a son histoire et qui a sa légitimité, je ne le conteste pas et je tiens à tous les bouts. Il y a eu un foyer national juif, il y a eu un mouvement nationaliste juif que l'on appelle le sionisme, comme il y a un mouvement national palestinien, mais toute critique des actions de ce mouvement reviendrait à de l'antisémitisme. Et Dominique Aidé, qui a très bien démonté cet argumentaire, souligne à ces gens, en regardant leur texte, qu'en fait, dans les mots, ils ont déjà effacé la Palestine. C'est-à-dire, la Palestine n'existe pas, le peuple opprimé n'existe pas. Il est effacé, il n'est pas dans leur conscience. Et là, on est quand même au cœur de... Normalement, c'est quoi la gauche ? Ben, la gauche, c'est pas être indifférent à l'injustice, c'est pas être indifférent au crime, c'est pas être indifférent à l'inégalité. C'est pas indifférent d'être au sort de ceux qui sont les premiers concernés. Voilà. C'est là où vous voyez bien comment, par l'aveuglement impérial et colonial, se fait la destruction des idéaux de l'émancipation. On est vraiment... C'est pour ça que Palestine, où se joue la paix du monde, Palestine, cause universelle... Et si vous lisez le livre, vous verrez que je fais le lien aussi avec Haïti, hein, avec deux noms de pays qui, pour moi, sont des symboles de nos aveuglements, et les aveuglements, je le redis, occidentaux, et face auxquels l'origine ne protège de rien. Hein, il y a l'origine identitaire ou l'origine politique ne protège de rien. Vous avez rendez-vous avec vous-même. La question coloniale vous met au rendez-vous de vous-même.
Merci Edoui Plenel d'être venu ce matin au micro d'Alir FM parler entre autres de ce livre « Palestine, notre blessure ». Il y aurait beaucoup d'autres questions à aborder que vous abordez dans ce livre. Je renvoie donc les lecteurs à ce livre publié aux éditions La Découverte. Il est 9h57 sur Alir FM 93.1. Cette émission spéciale se termine. Merci à Enrico Mastrogiovanni et Pierre Nigon, qui l'ont réalisé. Dans quelques instants, je cède la place à Thierry Gilibeuf pour le magazine littéraire Au fil des pages. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine. L'émission sera bientôt podcastable sur le site de la radio alirfm.org. Bonne semaine à toutes et à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.